Alors ce soir, on va parler du métier des armes au Tchad, puisque nous recevons quelqu'un qui est bien bagagé, Marielle Debeau, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 10. Et elle vient de publier un bouquin issu de sa thèse qui s'appelle « Le métier des armes au Tchad, le gouvernement de l'entre-guerres ». Le sous-titre est important, et c'est aux éditions Cartala. Alors, comment vit-on du métier des armes? Que font les combattants quand ils ne sont pas mobilisés par la guerre? Alors, vous saurez tout sur ce que sont les Colombiens, le Bogo Bogo, le 40-40, les Janjaouides. Il faut rester à l'écoute de Fréquences Paris Pluriel. Et puis, au-delà du cas tchadien, on essaiera d'aller un peu plus loin pour tenter de comprendre les frontières de la guerre et de la paix. Et puis, comment s'organise un gouvernement par les armes. Et puis, on essaiera aussi de réfléchir à la notion d'État en faillite ou d'État faible, parce que les sciences politiques sont utiles pour tous et pour toutes. Et qu'au-delà du cas du Tchad, on parlera des études en général de sciences politiques sur les conflits. Et avant ça, zik, tchadien.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Bien sûr.
Ok, d'accord.
Bien sûr.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop chez toi, de retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Yeah.
donne une chouma pour que y'a diamant. Y'a diamant.
Y'a diamant, hein.
Dorun tusu daraba, darabalet, eh darabalet, darabalet, eh darabalet, aha.
C'était Maître Gazonga qui était le jaloux saboteur à N'Djamena, puisqu'effectivement, aujourd'hui, aux oreilles, nous allons parler du Tchad, alors du côté des hommes en armes, puisqu'on a en plateau Marielle Debeau, bonsoir.
Bonsoir.
Qui est politologue et maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 10, et qui vient de sortir un bouquin tiré de sa thèse qui s'appelle « Le métier des armes au Tchad, le gouvernement de l'entre-deux-guerres », et c'est aux éditions Cartala.
De l'entre-guerres.
Aux éditions Cartala. Alors peut-être un petit rappel pour nos auditeurs, parce que bon, le Tchad, on a vaguement une image comme ça, qui est soit les gens, soit l'affaire Claustre, il y a fort longtemps dans les films de Depardon, soit pour les plus jeunes, l'histoire de l'arche de Zoé.
Zoé,
voilà. Une histoire, voilà, d'ONG qui allait voler des enfants qui n'étaient pas du Soudan au Tchad. Mais enfin, histoire de contextualiser un peu à quoi ça ressemble, le Tchad.
Alors, le Tchad ressemble à un grand pays assez peu peuplé, avec une partie en zone sahélienne, une partie en zone saharienne. C'est un pays avec 11 millions d'habitants et c'est surtout un pays pauvre. Jusqu'à récemment, jusqu'à 2003, il y avait deux principales ressources dans ce pays, l'élevage et l'agriculture, surtout le coton. Et depuis 2003, c'est un pays exportateur de pétrole. Alors ce n'est pas un des principaux pays exportateurs de pétrole en Afrique. Les principaux pays restent le Nigeria et la Libye. Mais pour le Tchad, l'exploitation du pétrole a véritablement changé l'économie. Alors cela a changé l'économie parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'argent et la capitale tchadienne a été métamorphosée en quelques années. Mais par contre, pour la plupart des Tchadiens et des Tchadiennes, l'exploitation du pétrole n'a pas changé grand-chose dans leur vie quotidienne. Alors pour vous donner une idée de la vie au Tchad, il faut savoir que la moitié de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté et que l'espérance de vie est de 50 ans. Alors l'espérance de vie en Afrique est généralement assez basse, mais elle est particulièrement basse au Tchad, même si maintenant le Tchad fait partie de ce petit groupe privilégié des pays producteurs de pétrole. Et dernière chose peut-être aussi pour présenter le Tchad, c'est régulièrement un des États classés parmi les plus faillis par les grands index internationaux, et c'est aussi un des pays qui est régulièrement parmi les cinq pays en haut du classement pour ce qui est de la corruption, de la perception de la corruption. Et ici, je fais référence au travail de l'ONG Transparency International qui classe chaque année les pays en fonction de la perception de la corruption. Et le Tchad a ce privilège d'être sur cette question aussi dans le haut du panier.
Et puis, c'était aussi une ancienne colonie française. C'est un pays qui est indépendant depuis finalement assez récemment.
Alors, le Tchad est évidemment une ancienne colonie française. Le Tchad est indépendant depuis 1960. Mais au Tchad, comme dans bien d'autres anciennes colonies françaises, la France a encore une grande influence. Il faut savoir qu'il y a une base militaire française au Tchad. Cette base militaire est présente depuis 1986. Il s'agit en fait d'une opération qui s'appelle l'opération Épervier, qui avait été montée dans un contexte très différent. Il s'agissait d'une opération pour soutenir le Tchad de Hissène Habré contre la Libye du colonel Kadhafi. Donc on est dans les années 1980, dans le contexte de la guerre froide. Et cette opération qui a été mise en place en 1986 se poursuit jusqu'à nos jours.
Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même eu de nombreux... Après l'indépendance, il y a eu de nombreuses rébellions et de nombreuses guerres civile inter-tchadienne.
C'est un pays qui est marqué par les rébellions, par la violence politique. C'est un pays qui est marqué par la violence, mais pas uniquement depuis 1960, les années de l'indépendance, mais depuis la période précoloniale et depuis aussi la période coloniale. Je me suis intéressée à un moment dans mes recherches à la violence du gouvernement colonial, c'est-à-dire à la violence exercée par les Français pendant la colonisation, donc entre 1900 et 1960. C'était une violence qui était une violence politique, dans le sens où il y a eu une répression de mouvements rebelles, d'insurrections. C'est-à-dire que, par exemple, un événement qui est peu connu en France, mais qui est très connu au Tchad, surtout dans l'est du pays, c'est le massacre dit du coupe-coupe en 1917 dans la ville d'Abéché. En 1917, il y a eu une rébellion locale. Et tous les dignitaires du régime de l'Empire du Wadaï, les intellectuels musulmans de l'époque ont été assassinés. Et un assassinat commandité par les Français. Et donc c'est un événement qui a marqué cette région, qui a marqué le pays, et un événement qui n'est pas oublié au Tchad, mais qui est évidemment oublié en France. Après cette période de violence coloniale, même si souvent on peut entendre que les Français ont pacifié le Tchad, une zone du Sahel qui était marquée par les razzias, par l'esclavage. Donc c'est une pacification assez particulière. Donc après cette période de colonisation, le Tchad a acquis son indépendance comme la plupart des pays d'Afrique francophone en 1960. Et très rapidement, des rébellions se sont montées. Il s'agissait à l'origine de jacqueries paysannes, c'est-à-dire des révoltes de paysans qui se révoltaient contre notamment la violence des fonctionnaires venus prélever l'impôt. Donc on avait affaire à l'origine à des petites révoltes, et ces révoltes ont pris de l'ampleur et elles se sont professionnalisées, comme je l'expliquerai peut-être plus tard, avec le soutien notamment par la Libye et le Soudan des rebelles. Et donc il y a eu soudainement beaucoup plus d'armes, et ces petites rébellions sont devenues des rébellions beaucoup plus importantes. Et progressivement, le Tchad est entré dans des périodes avec des cycles de rébellion et de répression, et des cycles qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours. Ce qui est important, c'est la date de 1990. En 1990, un chef de guerre en remplace un autre. Idriss Déby, soutenu par les Français, remplace Hissène Habré, donc renverse Hissène Habré par les armes. Et au début des années 1990, il y a eu un grand espoir au Tchad. Les Tchadiens attendaient une forme de libéralisation du régime, de démocratisation. Idriss Déby, le président, leur a promis ni l'or ni l'argent, mais la paix et la liberté. Or, très rapidement, les rébellions ont repris, et ces rébellions ont repris dans toutes les régions du pays. Et aujourd'hui, on peut dire que aucune génération n'a connu de vie sans guerre au Tchad, et toutes les régions du pays ont connu à un moment ou à un autre des périodes de rébellion et de répression.
Alors quand on lit par exemple dans le site internet du ministère des Affaires étrangères, il conseille bien de ne pas aller au Tchad parce que c'est un des pays les plus dangereux au monde. Alors toi, je crois que tu as fait un terrain là-bas pour ton enquête. Comment ça s'est déroulé? Parce que travailler sur les hommes en armes, quand on est une femme, quand on est blanche, ça ne doit pas être facile.
Alors j'ai fait l'essentiel de mon terrain entre 2004 et 2006, et je retourne régulièrement au Tchad depuis cette date. J'ai travaillé dans un pays qui était dans une situation d'entre-deux, d'entre-guerres. Au moment où je suis arrivée au Tchad, en 2004, c'était une période relativement calme au regard des standards tchadiens, c'est-à-dire que c'était l'année qui a suivi la fin de la rébellion dans l'extrême nord et l'année qui a précédé le renouveau de la rébellion dans l'est. Et à ce moment-là, je me suis intéressée à la réintégration des ex-combattants. Mais très rapidement, quand je suis revenue au Tchad en 2005, les combattants qui avaient été réintégrés dans les forces régulières avaient déjà pu repartir, puisqu'une nouvelle rébellion s'est formée à partir de 2005. Donc mon idée de travailler sur les ex-combattants s'est progressivement transformée en travail sur les trajectoires complexes des combattants qui vont et qui reviennent entre les forces rebelles, les forces régulières, la vie civile et parfois même le banditisme de grand chemin. Alors comment travailler sur ces questions-là? Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur ce que les combattants font précisément au moment où ils ne sont pas mobilisés par la guerre. Certaines personnes, certains journalistes, certains chercheurs, je pense par exemple à Jérôme Toubiana, sont allés véritablement très proches des zones où vivent les rebelles, très proches de leur base arrière. Moi, je n'ai pas fait ce travail parce que je n'ai pas le courage de le faire, parce que les conditions matérielles n'étaient pas réunies, parce que certainement...
Vous n'avez pas le droit aussi, peut-être
Aller au Darfour pour un journaliste ou un chercheur ou une chercheuse, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir des autorisations, mais les personnes qui veulent vraiment le faire peuvent le faire. Et si on attend d'avoir l'autorisation de faire ce type de recherche pour les faire, on ne les fait jamais. Donc ce n'est pas simplement une question d'impossibilité. Pour moi, c'était une question qui était à la fois un choix de me préserver d'une certaine façon en travaillant hors des zones rebelles, mais c'était aussi une façon de mettre l'accent sur l'importance de ces moments qui ne sont justement pas des moments de guerre. Et j'ai prêté une grande importance pendant toutes mes recherches à ce que l'on peut comprendre des logiques de guerre et de paix quand on observe non pas les moments de combat, non pas les moments où il y a une violence physique, mais tous ces moments et tous ces espaces où la violence est beaucoup plus insidieuse, parce que la violence n'est pas une violence de coup de feu. Et dans ces moments et des espaces, je me suis intéressée à toutes les formes de routinisation de la guerre et à ce qu'il reste de la guerre quand précisément on ne la voit plus.
Et alors comment tu as fait pour rencontrer ces ex-combattants? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident d'aller faire des entretiens avec des gens comme ça que tu ne connais pas, qui portent une kalachnikov.
Alors j'ai travaillé en rencontrant ces hommes au moment où ils ne sont pas mobilisés par la guerre, et parce que justement au Tchad, le métier des armes est routinisé, parce que justement c'est une activité qui est relativement banale, il est possible de travailler avec des hommes en armes. Et ce qui est frappant, et ce qui n'est pas un obstacle à la recherche, mais au contraire une des choses qu'il convient d'étudier, d'analyser, c'est le fait que certaines personnes vont avoir une grande liberté de parole et d'autres non. Si on schématise, on peut dire que les personnes qui n'ont plus rien à perdre, qui sont par exemple des ex-combattants démobilisés, stigmatisés, des jeunes qui ont abandonné le métier des armes et qui se retrouvent à la vie civile avec des conditions matérielles difficiles. Ces jeunes-là, par exemple, vont avoir une parole très libre, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à perdre. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, on va trouver des gens très proches du régime, y compris des officiers supérieurs dans l'armée, qui, parce qu'ils sont justement très proches du régime, vont eux aussi avoir une parole relativement libre. Et entre les deux, on peut trouver toute une série de personnes qui ont été cooptées sur des positions lucratives ou sur des positions politiques extrêmement, extrêmement délicates. Et toutes ces personnes qui sont cooptées ou qui sont en attente de cooptation, elles vont être beaucoup plus prudentes. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir comment un régime peut libérer la parole de, ou peut permettre une certaine liberté de parole dans certains endroits pour certaines personnes en contraignant la parole d'autres.
Alors là, ça n'a pas grand-chose à voir, mais dans toutes ces personnes qui portent des armes, est-ce qu'il y a des femmes ?
Il y a quelques femmes, mais il faut comprendre que le métier des armes est un métier exercé par des hommes et surtout un métier pensé comme un métier d'homme, comme un métier masculin.
Alors depuis tout à l'heure, tu parles de métier des armes, mais qu'est-ce que tu considères comme un métier, en fait ?
Alors j'ai défini le fait de vivre des armes comme un métier. Et j'ai défini ce métier comme l'activité exercée par ceux qui vivent des armes et qui vivent des armes en temps de guerre, mais aussi entre deux guerres, et qui vivent des armes par l'extorsion entre deux guerres ou qui vivent des armes par la guerre. Et donc cet ensemble d'activités qui peut être exercé donc alternativement ou simultanément dans les forces régulières, les forces rebelles ou le banditisme de grand chemin, cet ensemble d'activités exercé par des hommes et non par des femmes. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des femmes qui participent aux rébellions. Il y a en fait des femmes qui peuvent avoir un rôle important, mais un rôle qui, comme souvent dans beaucoup de pays du monde, va être invisibilisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître leur part du travail. Ces femmes vont avoir un rôle, par exemple, dans la logistique, dans le renseignement, dans le soin aussi aux blessés. Elles peuvent aussi avoir, être là pour des formes de travail sexuel. Et ce qui est important, c'est que leur contribution ne va pas être reconnue et que le métier des armes va être pensé comme un métier masculin exercé par des hommes et pensé comme ne pouvant qu'être exercé par des hommes. Alors il y a une exception. Une exception importante, c'est une des rébellions récentes de l'est du Tchad, qui vient d'une région qui s'appelle le Dartama. Et il y a une rébellion qui a revendiqué le recrutement de femmes et de femmes comme combattantes. Je n'ai cependant pas pu interviewer ces femmes combattantes parce que celle qui était leur chef a été assassinée avant que je commence l'enquête. Et elle a été assassinée pour des raisons qui ne sont pas claires. On ne sait pas si ce sont des raisons politiques ou non. Mais cela a incité les autres femmes qui avaient participé à cette rébellion à être extrêmement discrètes. Et au-delà de ce cas particulier, il faut voir que les femmes qui ont pu participer à des rébellions, en tant que combattantes ou en tant que compagnes de combattants, par exemple, peuvent être stigmatisées, qu'elles vont avoir tendance à ne pas revendiquer leur participation à la rébellion de la même façon que les hommes vont revendiquer cette participation à la rébellion. Et au Tchad, comme dans beaucoup d'autres pays, les programmes de démobilisation et de réinsertion des combattants vont s'adresser avant tout aux combattants hommes, sans prendre en compte la part des femmes qui ont pu participer à un titre ou à un autre à la rébellion.
Bah justement, peut-être écoutons une femme tchadienne qui chante.
Al-Maradi Akhout, Al-Maradi Am, Al-Maradi Zawja, المرضي بيت ندور كرام للمرة أنتوا كرام للمرة أترى يلا دارو إرحب على المرة أنا هيا قلب دنيا دارو إرحب على المرة الدنيا في إيدني قرى خلقوني مرة كرمت نفسك ما كرمت جار الاوين تبان
مالت سيفا سلا خود كاشان ما غاريه مالت سيفا سلا خود كاشان فاتت كلام اوين بخصينا كلنا ولكن انتي انا ميوريكي
فاتي شهورتكي شتي هلكي ودافي نفسكي الا انتي نادم بسوي ما في
هل ابخلي في صندوق وعرف
ترى يلا دارو يرحب على المرة أنا هيا قلب دنيا
دارو يرحب على المرة
الدنيا في إيداني
مرة خلقوني مرة
مسؤولية حنا والودة وأنتني ترى يلا
دارو
toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous êtes avec les oreilles loin du front. Alors c'était Moumira Michala qui est une chanteuse tchadienne parce que ce soir nous parlons du métier des armes au Tchad avec la chercheuse Marielle Debeau.
Et justement on a parlé un petit peu du terrain que tu as fait sur place pendant quelques années et puis entre 2004 et 2006 et moi je voulais savoir comment, parce qu'en rencontrant tous ces gens en armes, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont en armes dans l'armée pro-gouvernementale et puis il y a les gens en armes dans les rébellions, donc comment on fait pour aller voir ces gens-là et est-ce qu'on n'est pas inquiété par les autres, enfin comment tu étais perçu par les autorités tchadiennes, est-ce que c'était pas compliqué Idriss Déby c'est quand même pas un tendre, on va dire ça comme ça.
Alors contrairement à l'image que l'on a du Tchad, quand on est à l'extérieur du Tchad, le Tchad n'est absolument pas un État failli et absolument pas un État faible. L'affaire de l'Arche de Zoé, donc quand cette pseudo-ONG française avait tenté d'exfiltrer des enfants du Tchad, qui étaient en fait des enfants, enfin qui a tenté d'exfiltrer des enfants du Darfour, qui étaient en fait des enfants du Tchad, quand cette affaire a été dévoilée, on a eu l'impression qu'il n'y avait rien au Tchad, qu'il n'y avait pas d'administration, qu'il n'y avait pas d'autorité et que l'Est du Tchad était une zone de non-droit, une zone où il n'y avait plus d'État. C'est absolument faux. Et on est très contrôlé au Tchad, et y compris en tant que chercheuse. J'ai dû avoir des autorisations de recherche et aussi une autorisation pour circuler dans l'Est. Donc la zone de l'Est, qui était la zone la plus proche du Darfour, enfin qui est toujours la zone la plus proche du Darfour, mais qui était jusqu'à une période récente la zone la plus proche des bases rebelles tchadiennes. Cette zone-là est particulière et il faut des autorisations spéciales pour s'y rendre quand on est non tchadien. Donc on a une forme de contrôle qui n'est pas un flicage au quotidien, mais qui est quand même une forme de contrôle qui prouve qu'il y a bien au Tchad des autorités administratives et des autorités aussi militaires. Alors, ça n'a pas été un obstacle parce que j'ai pu, avec un peu de patience, obtenir toutes les autorisations nécessaires à chaque fois. Mais c'est véritablement une preuve de la force de l'État tchadien, y compris dans les zones les plus reculées du territoire. Sur la façon dont j'étais considérée, il faut surtout voir la façon dont j'étais considérée par les personnes que j'ai pu rencontrer. Et j'ai travaillé essentiellement avec des hommes, puisque j'ai travaillé sur un métier qui est exercé par des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas considérée comme une femme, en tout cas pas comme une femme comme les autres, parce que je suis une étrangère, parce que je suis une Française, parce que je suis une blanche. Au Tchad, les hommes et les femmes mangent dans deux plats séparés. Et j'ai presque toujours été invitée à partager le plat des hommes, ce qui signifie que je ne suis pas complètement une femme. Donc en tout cas, je suis dans un genre qui n'est pas un genre strictement féminin et que j'ai un statut qui est complètement à part dans ce pays. Et
J'ai pensé dans un premier temps que ce statut particulier était lié à mon objet de recherche, au fait que je fréquente essentiellement des hommes et des militaires et que je parle de questions politiques et de questions militaires. Mais je me suis rendu compte en discutant avec des anthropologues qui avaient travaillé également au Tchad et sur des sujets beaucoup moins, entre guillemets, masculins, qu'elles étaient elles aussi invitées à partager le plat des hommes. Et donc je pense qu'il y a un statut des femmes étrangères qui est très particulier.
Ouais, moi j'avais une question plus précisément sur ton objet de recherche justement, puisque t'es partie en fait, je crois, un peu de l'idée que t'expliquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment d'anomie, enfin qu'il n'y a pas d'absence de règles de l'État, et qu'il y a justement, enfin t'as essayé en fait de restituer à travers cette sociologie politique du métier des armes les règles qui régissent le métier des armes au Tchad. Alors, je ne sais pas si indifféremment est le terme, mais indifféremment du fait que les gens soient engagés soit dans la rébellion, soit dans l'armée régulière, ou ce que tu disais tout à l'heure, dans le banditisme de grand chemin. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, justement, sur vraiment cette approche que tu as, qui se démarque en fait de tout un courant de la sociologie politique ?
Oui, en fait, cette question est importante parce que quand on a redécouvert les conflits dans les années 1990, on a eu tendance à considérer que les zones de conflit, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans les Balkans, étaient des zones où une violence anomique allait se diffuser, des zones où aucune norme n'était en vigueur.
Oui, anomique qui n'a pas de règles, quoi.
Oui, si on revient un petit peu en arrière, au moment de la guerre froide, on pensait que la paix était une condition sociale par défaut, c'est-à-dire qu'avec la fin de la guerre froide viendrait nécessairement une période de paix et de paix mondiale, puisque c'était la guerre froide qui alimentait tous les conflits. Dans les années 1990, les analystes des conflits ont été frappés par la violence et la cruauté des conflits en Afrique de l'Ouest, et notamment en Sierra Leone, au Liberia, par la violence aussi des massacres dans les Balkans. Et il y a eu un premier courant d'études, et aussi courant médiatique, qui avançait l'idée que ces conflits étaient des formes d'anarchie et d'anarchie sans règles. Sont ensuite venus, heureusement, des sociologues, des anthropologues qui ont travaillé sur ces terrains et qui ont essayé de montrer que même quand il y a des formes extrêmement cruelles et brutales de violence, il reste des normes, il reste des contextes sociaux, historiques et politiques qui permettent d'expliquer ces violences et ces manifestations de violence qui, a priori, peuvent sembler extra-ordinaires, c'est-à-dire relever de phénomènes incompréhensibles et de phénomènes irrationnels. Donc je pense qu'un des véritables défis depuis ces années-là, est d'arriver à expliquer des phénomènes de violence en les resituant dans leur contexte et en voyant à quel point ils relèvent de logiques politiques et pas uniquement, par exemple, de l'opportunisme des combattants ou, par exemple, pas uniquement d'un manque de moralité de ces personnes qui s'engageraient dans la lutte armée. Donc il m'a semblé extrêmement important de montrer que les personnes qui s'engagent dans la lutte armée au Tchad, qui vivent des armes, sont des personnes qui, certes, peuvent tirer des revenus, des bénéfices de leur activité armée, mais que ce ne sont pas des personnes qui le font par simple opportunisme ou par avidité. Or, c'est un discours qui est fréquemment tenu à propos des combattants tchadiens et à propos des combattants dans d'autres régions du monde. Et ce qui m'a semblé crucial, c'est de me poser la question toute simple de pourquoi les gens au Tchad font de la politique en prenant les armes, alors que dans d'autres régions du monde, on fait de la politique sans prendre des armes. Et si les gens prennent les armes pour faire de la politique au Tchad, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire de la politique en ayant recours à la violence, mais parce que le champ politique tchadien, comme bien d'autres champs politiques, n'a jamais été pacifié, et que la violence de la rébellion ne peut être analysée séparément de la violence d'État. Et c'est tout le sens du sous-titre de l'ouvrage, « Le gouvernement de l'entre-guerres ». Ce que je veux montrer, c'est que dans ces moments où il n'y a pas de combat, où il n'y a pas de rébellion, où il n'y a pas d'affrontement entre les forces gouvernementales et les forces rebelles, il existe encore des formes de violence, et des formes de violence qui sont en partie entretenues par l'État, et des formes de violence qui vont donc inciter à la mobilisation. Et juste pour dire les choses de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus simple peut-être, quand j'étais dans le Dartama, donc cette région de l'est du Tchad, j'ai rencontré des ex-combattants qui avaient été démobilisés récemment, et j'ai été frappée par leur discours, puisque la plupart d'entre eux me disaient avoir pris les armes après des violences commises contre leur famille ou après des vols, mais des vols de grande ampleur, tels que des vols de bétail, donc les vols de bétail qui mettent en danger la survie d'une famille. Et la prise des armes semble beaucoup moins incompréhensible si l'on considère que dans le temps de la vie civile, la vie est déjà elle-même dangereuse. Donc des gens prennent les armes et rejoignent des rébellions, mais ce geste n'est pas incompréhensible si l'on se rend compte qu'au moment où ils sont censés être dans la vie civile, au moment où ils sont censés être dans des périodes de paix, entre guillemets, leur vie est déjà dangereuse.
Mais alors du coup, justement, ce concept d'entre-guerre, c'est quelque chose qui existe dans la sociologie politique ou c'est toi qui l'as un peu inventé pour expliquer la situation au Tchad ? Parce qu'on peut revenir là-dessus.
Oui, en fait, le terme d'entre-guerre est un terme que j'ai proposé pour sortir justement de l'alternative entre guerre et paix. Donc aujourd'hui, il y a des discussions assez importantes en anthropologie, en sciences sociales, sur les conflits armés, sur les notions même de guerre et de paix. Et on est nombreux aujourd'hui à dire qu'il faut réfuter les approches qui opposent et qui réifient la guerre et la paix, et qu'il faut au contraire penser l'enchevêtrement de logiques de guerre et de paix. Il y a un terme qui est extrêmement utilisé, qui est le terme post-conflit, qui désigne cette transition de la guerre vers la paix. Mais dans le cas tchadien, on n'a pas de transition de la guerre vers la paix, puisque justement, comme je l'ai expliqué, il y a la persistance de logiques de guerre dans ces moments censés ne pas être des moments de guerre.
Et est-ce que tu dis aussi que la guerre reste un horizon d'attente, en fait ?
Voilà, et ce qui me semble extrêmement important, c'est qu'au Tchad, dans ces moments où il n'y a pas d'affrontement, où il n'y a pas de coup de feu, la prochaine guerre reste l'horizon d'attente, et donc on a une reproduction dans l'après-guerre des conditions qui ont conduit à la guerre. Alors je ne veux pas dire par là que le Tchad est condamné à vivre une succession de guerres et qu'il y a un enchaînement mécanique des conflits et qu'un pays qui aurait une histoire violente serait condamné à avoir une histoire à tout jamais violente. Non, absolument pas, mais il me semblait important de trouver un autre terme pour désigner ces moments qui ne sont pas des moments de paix, mais qui sont quand même des moments violents.
Et alors justement, les combattants... quand ils passent du moment de guerre à l'entre-guerre, que font-ils en fait ? Ils quittent leurs armes, ils font autre chose ?
Alors quand je dis que je travaille sur la façon dont on vit des armes hors de la guerre, je ne veux pas dire que les gens vivent des armes en tirant des coups de feu. Très souvent, on vit des armes, mais on vit des armes parce que ces armes servent à intimider, à impressionner, à extorquer les civils. Et j'ai passé beaucoup de temps à observer les interactions entre les hommes en armes et les civils, entre par exemple des hommes en armes et des commerçantes qui vivent de la fraude à la frontière entre le Tchad et le Cameroun, et observer la façon dont ces hommes en armes vont s'imposer ou non dans des interactions, et donc la façon dont le métier des armes imprègne le quotidien des civils.
C'est la dimension symbolique aussi des armes, en fait, et du métier des armes. Et il y a cette anecdote que tu racontes au début de l'introduction qui est assez révélatrice. Est-ce que tu peux nous la restituer, là ?
Oui, en fait, je commence l'ouvrage par une scène très ordinaire au Tchad, et pourtant peu ordinaire ailleurs. Donc je suis dans un minibus à la frontière entre le Tchad et le Cameroun avec des commerçantes, avec un ami qui est un ancien militaire. Et notre minibus est arrêté par ce que les Tchadiens appellent des bogo-bogo. Alors les bogo-bogo sont des agents bénévoles de la douane ou des douaniers.
On peut être bénévole quand même, c'est assez fort. Moi, je trouve le concept d'agent bénévole de la douane.
En fait, agent bénévole de la douane est un euphémisme pour désigner des personnes qui ne sont pas officiellement des douaniers, mais qui vivent de l'extorsion sur les civils. Notre minibus est arrêté. Tout le monde est inquiet, surtout les femmes qui transportent du sucre, des pagnes, qui vivent du commerce entre le Tchad et le Cameroun, et tout le monde a peur d'être dépouillé. Et là, coup de théâtre, le chauffeur du bus s'impose et s'impose face aux bogo-bogo. Et donc, toute la question qui se pose est que s'est-il passé ? Qui sont ces hommes en armes qui ont arrêté le minibus ? Et pourquoi le chauffeur peut-il refuser le contrôle et donc l'extorsion par les douaniers. Et la réponse qui est à la fin de l'ouvrage et que je vous livre est que ce chauffeur de bus est lui-même issu d'une trajectoire guerrière dans le sens où il appartient à des personnes qui sont dites intouchables au Tchad, c'est-à-dire à des personnes qui sont protégées par les autorités, à des personnes qui peuvent vivre d'activités légales ou illégales mais sans être inquiétées. Et donc l'hypothèse que je fais est que l'aboutissement de la vie d'un homme en armes est finalement de s'en passer. Alors évidemment, quand on est conducteur d'un taxi ou d'un bus au Tchad, on ne fait pas partie de ceux qui ont véritablement bénéficié de la guerre. Mais cette situation n'est compréhensible que si l'on prend en compte le mode de gouvernement au Tchad et que si l'on prend en compte la part de prédation et si l'on prend en compte à quel point la prédation et la corruption sont politiques. La corruption est souvent considérée comme une maladie des pays, comme des pays pauvres, pour simplifier. Or, quand on regarde comment cette corruption fonctionne, on se rend compte qu'elle appartient en fait à un mode de gouvernement, que c'est une façon aussi pour l'État de contrôler les populations. Au Tchad, on a un État qui va d'une part réprimer violemment des rébellions, et d'autre part coopter certains individus qui vont être des têtes de réseau, qui vont pouvoir mobiliser aussi de leur côté. Et donc on va avoir un mélange assez subtil et redoutable entre la répression et la cooptation. Et ce qui va être distribué, ce sont aussi des positions de prédation, donc ce sont aussi des positions qui vont permettre à des proches du régime de se servir sur la population. Et c'est aussi pour ça qu'il me semble important de regarder ce qui se passe hors des temps de guerre et de voir comment des formes de violence politique s'accompagnent de formes de prédation qui participent, elles aussi, du contrôle et de la surveillance des populations.
Mais justement, les formes de violence politique, là tu les décris comme par exemple réprimer les rébellions, mais dans la vie quotidienne, comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des signes particuliers?
Alors il y a beaucoup moins d'assassinats politiques sous Idriss Déby que sous Hissène Habré. Il y a cependant un opposant qui a disparu, et qui a disparu récemment, en février 2008. Donc en février 2008, la coalition rebelle attaque la capitale, et au moment de l'attaque sur la capitale, l'armée gouvernementale arrête 3 opposants. L'un d'entre eux ne réapparaîtra jamais, et l'opposant qui a disparu s'appelle Ibni Oumar Mahamat Saleh, et il était l'un des leaders de l'opposition et le porte-parole de la coordination des partis politiques qui avait signé un accord avec le gouvernement. Donc on a le principal opposant qui disparaît en février 2008. Donc c'est un assassinat politique puisqu'il ne réapparaîtra pas. Il a été reconnu qu'il a été arrêté par l'armée gouvernementale et non par les rebelles. Donc on a des assassinats politiques qui sont beaucoup moins nombreux. Donc dans la vie quotidienne, la plupart des Tchadiens n'ont pas peur de ce type de menaces. Et il y a par exemple des radios qui sont libres, il y a une presse privée qui va être extrêmement critique. Mais en même temps, parce que le régime a en quelque sorte lâché la bride de la soldatesque, ou va permettre à certains proches qui sont considérés comme des intouchables de se comporter comme ils le souhaitent et d'avoir recours à des activités illégales, voire parfois violentes, parce qu'on a ce problème d'impunité, il y a un risque pour les personnes qui vivent au Tchad d'être attaquées sans qu'elles sachent si cette attaque a une rationalité politique ou non. Et là, je dois apporter une nuance extrêmement importante, c'est que dans la capitale et dans le sud du pays, il y a une vie politique, une vie associative très riche. Il y a des partis politiques d'opposition, il y en a même beaucoup trop pour qu'ils soient efficaces, mais il y a des associations de la société civile, il y a des syndicats, il y a parfois des mobilisations, des manifestations. En revanche, dans certaines régions, et notamment dans toutes les régions de l'Est et du Nord, il y a un contrôle sur les populations beaucoup plus important. Et donc on a des libertés qui ont été conquises dans le Sud, mais qui n'ont pas été dans les autres régions du pays. Et pour cette raison, quand on analyse les résultats des dernières élections, on peut se dire finalement les choses ne vont pas si mal, puisqu'il y a des députés de l'opposition qui ont été élus à l'Assemblée nationale, et puisqu'il y a par exemple 2 villes du Sud qui ont été gagnées par l'opposition lors des premières élections municipales qui se sont tenues dans le pays l'année dernière. Mais si on regarde dans le détail, on se rend compte que dans certaines régions, les partis d'opposition étaient en fait des partis factices, ou alors qu'il n'y avait pas de partis d'opposition qui présentaient des candidats. Ce qui doit inciter les acteurs internationaux à se poser la question, pas simplement est-ce que les élections sont truquées ou non, mais est-ce qu'il y a des candidats et des candidats qui font face aux candidats du parti au pouvoir dans toutes les régions du pays.
Alors là, c'est peut-être un autre sujet, mais pas forcément différent. C'est quand tu parles tout à l'heure des combattants qui sont dans la rébellion, il y a une certaine aussi fluidité, parce que les gens passent, tu as l'impression qu'ils passent de l'armée régulière à la rébellion, puis après, ils sont cooptés ailleurs. C'est pas aussi simple que ça, l'opposition et l'armée.
Alors il y a une grande fluidité des statuts, et c'est ce qui m'a frappé en arrivant au Tchad. Les gens vont parler de la façon dont ils sortent. Le verbe sortir signifie partir en rébellion. Donc sortir, c'est sortir de la ville, sortir du pays, sortir de la légalité, mais sortir avec souvent l'idée de revenir. Et il y a une véritable économie de la guerre et de la paix au Tchad. Donc on peut partir en rébellion pour 3 mois, signer un accord de paix et revenir. Et cette forme, ce travail des armes est lié à une économie qui est locale et est lié aussi à des accords de paix qui sont devenus, avec les décennies, non pas des moyens de mettre fin à la guerre, mais des moyens au contraire de continuer la guerre ou de négocier une meilleure position afin de reprendre quelques mois ou quelques années plus tard la lutte armée. Donc on a une véritable économie de la guerre et de la paix. Une économie qui est locale, mais une économie qui n'est pas sans lien aussi avec des enjeux internationaux et avec une économie capitaliste globalisée. Et ça, c'est un point qui est important à propos du Tchad, mais c'est un point qu'on pourrait faire à propos de la plupart des conflits d'Afrique, même si à chaque fois on a affaire à des économies différentes. Mais par exemple, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est incompréhensible si on ne prend pas en compte la part des ressources, et la part des ressources et notamment des minerais rares que l'on retrouve dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs. Donc la part de ces ressources dans la guerre et des ressources qui sont évidemment, qu'on retrouve évidemment dans nos objets quotidiens et qui sont liées à l'économie des multinationales.
Mais donc, c'est-à-dire que c'est... Là tu es en train de dire que, par exemple, en RDC, à l'est de la... Enfin, le lien, en fait, avec le fait qu'il y ait une fluidité des combattants, c'est la même chose en RDC, par exemple ? C'est le même type de fluidité des combattants ou c'est... Les accords de paix qui sont signés sont des accords qui doivent permettre aussi d'alimenter, en fait, une guerre future, c'est ça ?
Alors, il y a des similarités, parce que l'on a au Tchad, comme dans l'est de la République démocratique du Congo, des factions rebelles qui sont... fragmentés, avec des alliances qui sont mouvantes, qui sont extrêmement instables. Et on a aussi des économies locales qui sont liées à des économies globales. Et pourtant, les ressorts de ces conflits ne sont pas forcément les mêmes. Mais sans entrer dans les détails, ce qui est important, c'est de voir que pour comprendre un conflit, il importe d'une part de le resituer dans son contexte historique spécifique, et donc localisé, et qu'on ne peut pas faire des analyses des conflits en parlant en général des conflits africains. Mais qu'en même temps, ces conflits ne sont pas des conflits strictement africains, au sens où les logiques qui les alimentent sont des logiques véritablement transnationales, et que l'on a, des liens entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Et qu'on ne peut donc pas considérer que les conflits africains sont l'affaire des Africains, puisque ces conflits africains sont aussi notre affaire. Et un autre point important à ce sujet, ou plutôt la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est qu'on donne souvent l'impression que l'on a d'un côté des États protecteurs, les États qui vont promouvoir des nouvelles conventions internationales sur les droits de l'homme, qui vont protéger les enfants soldats, et de l'autre des États qui seraient les États qui exploiteraient les enfants, par exemple les enfants soldats, alors qu'en fait les armes qui servent à tuer et qui servent, que l'on donne aux enfants soldats dans ces pays, sont fabriqués dans les principales puissances de la planète. C'est une évidence, mais on l'oublie souvent. Et l'autre point important, c'est que les ressources qui sont prélevées dans ces conflits, dans ces zones de conflit, sont des ressources qui vont ensuite alimenter une économie et une économie globalisée. Et sur ce point, il y a des travaux notamment qui ont été faits et qui sont extrêmement importants sur les conflits en Afrique de l'Ouest et sur toute l'économie des diamants en Afrique de l'Ouest qui a alimenté les conflits au Libéria, en Sierra Leone notamment, et des conflits qui ont été extrêmement violents. Et ce qui est important sur cette question, c'est de voir qu'on n'a pas simplement des ressources qui sont prélevées pour alimenter des économies globales, mais qu'on a des formes de travail et des formes de partage du travail à l'échelle internationale qui font d'une jeunesse masculine dans ces pays-là une main-d'œuvre bon marché, et une main-d'œuvre bon marché qui va pouvoir être mobilisée à la fois dans des mines de diamants, par exemple, mais aussi dans l'économie de la guerre. Et sur cette question-là, je renvoie à un ouvrage assez récent et passionnant de Danny Hoffman, qui a travaillé donc sur ces machines de guerre, ce qu'il appelle des machines de guerre, en reprenant des concepts de Deleuze et Guattari, qui sont en fait cette jeunesse masculine qui peut être mobilisée à la fois pour la guerre et pour l'exploitation économique.
C'est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on parle des hommes en armes au Tchad avec Marielle Lebeau.
Tchamou, tchamou, tchamou. tamuke io le tamuke tamu tamuke io tamuke tamu tamuke io le tamuke tamu tamuke
Toujours avec les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. Alors c'était Moumia Mitchala, une chanteuse tchadienne qui chantait Zarli.
Voilà, et on écoute une chanteuse tchadienne puisqu'on est avec Marielle Debeau pour son livre Le métier des armes au Tchad, le gouvernement de l'entre-guerre. Et on essaye d'aller un peu au-delà des clichés rébellion, contre-État, guerre, paix, et de déconstruire un petit peu tout ça. Et donc, Marielle, tu nous expliquais juste avant la pause qu'il y a une très grande fluidité en fait, des combattants entre ceux qui participent aux rébellions, ceux qui participent à l'armée tchadienne et ceux éventuellement qui s'adonnent au banditisme de grand chemin. Et un des éléments que tu soulignes dans ton livre, c'est le fait que les conflits, justement, ne sont pas polarisés par des identités ou par des idéologies, mais par des situations. Et voilà, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, justement, sur cette idée que les conflits ne sont, sont pas polarisés strictement idéologiquement.
Oui, on considère souvent les
conflits africains comme des conflits ethniques. D'ailleurs, c'est des questions qu'on me pose régulièrement. Alors, est-ce que le conflit au Tchad est un conflit ethnique ? La réponse est tout simplement non. C'est un conflit politique, parce que les conflits ethniques n'existent pas. Mais en revanche, il y a des formes de politisation de l'ethnicité, c'est-à-dire on peut mobiliser les gens sur un registre identitaire et sur un registre ethnique.
Ouais, les conflits ethniques n'existent pas parce que ça revient à réifier en fait les appartenances ethniques.
Et si l'on regarde concrètement le type d'alliance qui peut être faite au Tchad, on se rend compte que toutes les alliances sont possibles, que des alliances entre chrétiens et musulmans ont pu être possibles, que des alliances entre des différents groupes ont pu être possibles. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand un combattant part dans le maquis, il ne suit pas n'importe qui, et il va suivre quelqu'un qu'il connaît, et il va suivre généralement l'un de ses parents, enfin parents au sens africain du terme, c'est-à-dire l'un de ses oncles plus ou moins éloignés. Donc, je parle de la guerre comme d'une situation, parce que ce qui marque la possibilité de l'affrontement, ce n'est pas le fait que l'ennemi est un autre radicalement autre, mais le fait que la situation suppose d'avoir recours aux armes. Autrement dit, on considère souvent que les gens se battent parce qu'ils se détestent, parce qu'ils ont envie de se battre, ou parce qu'ils ont une revanche à prendre. Et quand on est vraiment sur ce type de terrain, on se rend compte que très souvent, les gens ne se battent pas parce qu'ils ont envie de se battre ou parce qu'ils détestent leur ennemi, mais plus simplement parce qu'il y a une situation politique qui, à un moment, fait du recours aux armes l'option la plus rationnelle, et que dans le moment où la situation, ce qui est le terme situation est un terme qui revient souvent dans la discussion, dans la situation de la guerre, alors il faut avoir recours aux armes. Ce qui signifie qu'il y a certains actes qui sont condamnés légalement, mais aussi condamnés moralement dans les périodes où il n'y a pas de guerre, par exemple tuer son voisin, un acte qui va devenir un fait de guerre au moment de la situation de guerre. Et j'insiste sur ce point pour montrer qu'il y a une grande malléabilité à la fois des positions politiques et des identités, et que donc on n'a pas affaire à des identités irréconciliables, et que ce type de conflit est une question extrêmement politique, et qui est aussi, et qu'une des questions importantes pour le Tchad aujourd'hui est comment la lutte armée a-t-elle pu devenir une façon ordinaire de faire de la politique, et comment la lutte armée a pu devenir cette façon ordinaire de faire de la politique au détriment de la lutte politique sans armes, de la lutte légale et civile.
Alors pourquoi justement, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as des hypothèses à avancer ?
L'opposition civile est parfois récompensée par des formes de cooptation. Donc on va coopter un leader de l'opposition en le nommant à un poste de ministre. Mais cette forme de cooptation va aussi le décrédibiliser. Et des opposants qui ont pu avoir plus de poids, plus de pouvoir, vont eux être parfois menacés. Et là, je pense à Ibni, à sa disparition à laquelle je faisais référence un peu plus tôt. Et donc, un des véritables enjeux, mais ça, ce n'est pas à moi, mais aux acteurs politiques là-bas d'y répondre, c'est comment reconstituer un champ politique qui ne soit pas uniquement un champ armé.
Parce que le gouvernement, c'est une forme de gouvernement, finalement, au Tchad, les armes. C'est-à-dire que tout fonctionne comme cela.
Alors ce que j'entends par gouvernement des armes, c'est à la fois la façon dont la population civile est gouvernée par des militaires et des hommes en armes, et la façon aussi dont l'État va gouverner ce grand monde des hommes en armes. Et ce qui est important pour moi est de voir comment on peut avoir une armée qui est milicianisée, une armée avec un fonctionnement débureaucratisé, avec un fonctionnement extrêmement lâche, et en même temps une armée qui va rester sous le contrôle de l'État.
Et qui est puissante, qui a un vrai pouvoir politique.
Et une armée, oui, qui va être puissante face à la rébellion au Tchad, mais qui va aussi être puissante face aux groupes djihadistes dans le nord du Mali.
Et cette armée, elle est constituée... Parce que comme tu disais tout à l'heure, qu'en fait, on pouvait très bien passer de l'armée à la rébellion, enfin, il y avait une porosité. Ça veut dire que qui fait partie de l'armée ? Est-ce que c'est des gens... Est-ce qu'il y a des convictions particulières pour servir le gouvernement ? Ou est-ce qu'on se retrouve là un peu par hasard ? Enfin, qui constitue cette armée tchadienne ?
Alors, l'armée est composée d'une grande partie d'ex-rebelles qui ont été réintégrés après des accords de paix. Donc on a une armée composée de personnes qui n'ont pas une formation militaire classique, mais qui peuvent être efficaces sur le terrain. Et on a une armée avec un fonctionnement milicianisé. Alors, ce que j'entends par fonctionnement milicianisé, c'est qu'elle n'a, c'est une armée qui n'a pas un fonctionnement bureaucratique, qui n'a pas une chaîne de commandement fixe. Et c'est une armée qui va s'adapter au terrain, qui va s'adapter au profil de l'ennemi. Et ce qui est important, c'est que la fluidité qui marque l'armée n'est pas le signe de sa faiblesse, mais au contraire, l'une de ses ressources. C'est parce que cette armée a un fonctionnement qui repose en partie sur des réseaux sociaux militarisés, c'est-à-dire que les commandants vont avoir une influence et un pouvoir qui est parfois moins lié à leur grade officiel, à leur position officielle dans la chaîne de commandement qu'à leur personnalité et qu'aux réseaux sociaux qu'ils peuvent mobiliser. Parce que cette armée a ce fonctionnement, elle a aussi une certaine efficacité sur des terrains où, de toute façon, il y a une grande fluidité.
Et donc, pardon.
Et l'autre point important, c'est que l'armée a beaucoup changé. Il y a déjà un programme de restructuration des forces armées qui a été mis en place assez récemment, donc il faudra voir ce que ce programme donne. Mais surtout, c'est une armée qui a bénéficié de l'argent du pétrole. Je vous disais un peu plus tôt que le Tchad est un pays producteur de pétrole depuis 2003. Le projet pétrolier tchadien a été financé par la Banque mondiale, ou plutôt a bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale, et la conditionnalité était que le Tchad accepte des formes assez contraignantes de gestion des revenus pétroliers. Et les revenus pétroliers devaient revenir à des secteurs dits prioritaires, tels que l'éducation ou la santé. Et très rapidement, en quelques années, à partir de 2006, cette loi de gestion des revenus pétroliers a été démantelée pour permettre de mettre parmi les secteurs prioritaires la sécurité et donc l'armée. Et l'armée tchadienne, en quelques années, est devenue une armée extrêmement bien équipée, avec notamment des hélicoptères de combat. Hélicoptères de combat qui ont joué un rôle clé lors de la victoire de l'armée sur les rebelles en 2008 et en 2009. Mais aussi ressources, argent, qui ont permis à l'armée tchadienne de changer véritablement de visage et de devenir l'une des armées saluées comme l'une des meilleures du Sahel et de l'Afrique. Et si on regarde les discours qui sont tenus actuellement sur le Mali et sur l'intervention tchadienne au Mali, on peut se rendre compte que tout le monde salue l'efficacité de l'armée tchadienne.
Le côté professionnel, c'est des professionnels.
Le côté professionnel de l'armée tchadienne. Ce qui est assez ironique, si on se souvient que quelques années auparavant, le discours qui était tenu à propos de la même armée était que cette armée bénéficiait de argent du pétrole qui était censé revenir à la population civile et au programme de développement. Donc cette intervention du Tchad au Mali crée aussi ce qu'on peut appeler une rente diplomatique, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus difficile maintenant de critiquer le Tchad, de critiquer la mauvaise gestion des revenus pétroliers, de critiquer la corruption, de critiquer l'impunité octroyée à des proches du régime, de critiquer aussi le fonctionnement de l'armée tchadienne, par exemple, quand cette armée est venue au Mali à la demande de la France et a joué un rôle et joue encore un rôle sur le terrain extrêmement important.
Donc de tout ce que tu nous dis, en fait, on comprend que l'État tchadien n'est pas du tout un État faible, n'est pas du tout un État inexistant, et au contraire un État puissant, et ça va un peu à l'encontre de nos représentations. Donc en fait, c'est la force de l'État explique la prégnance même des armes.
Alors c'est la force de l'État tchadien, et une thèse sur laquelle j'insiste à la fin de l'ouvrage, parce que c'est une thèse qui va contre nos représentations, contre les discours médiatiques, mais c'est aussi une thèse qui va contre les rapports de certains experts. Et ici, je pense en particulier à une ONG américaine, en fait plutôt à un think tank, donc une boîte à idées, extrêmement influente et qui publie chaque année dans la revue Foreign Policy, qui est donc aussi une revue influente.
Très prestigieuse, ouais.
Très prestigieuse et située très loin de la gauche. et revue qui publie chaque année son index des États faillis. Et depuis un certain
J'imagine
nombre...
J'imagine que le Tchad est dans les 175e ou 170e.
Oui, en fait, l'index fonctionne à l'envers. Et parmi les États les plus faillis, on retrouve toujours le Tchad,
quatrième
le Soudan,
position,
le Zimbabwe. Et oui, en quatrième position en 2012, donc lors du dernier index. Donc si on regarde cet index, on se dit que le Tchad est un État failli. Et si on lit certains articles de presse, on peut comprendre où on peut avoir l'impression de comprendre que l'Est du Tchad est affecté par une forme de maladie et par une forme de contagion de la guerre du Darfour dans l'Est du Tchad.
Puis que c'est un endroit de non-droit, quoi. C'est vraiment le Far West. Je ne sais pas si c'est à l'Ouest, hein, mais c'est à l'Est. Mais...
Enfin, un Far, Far East, en l'occurrence.
Et c'est ça, parce que juste peut-être pour revenir sur la définition d'État failli, ça se définit comment exactement ?
Alors, tout dépend quelle définition on retient, mais la définition de ce think tank qui est le Fund for Peace est que les États faillis sont les États qui, sont les États qui ont à la fois des problèmes de politique, économique, sociaux. Donc il y a une sorte d'indicateur qui est forgé à partir de différents indicateurs qui sont eux-mêmes des indicateurs qui sont fondés sur des analyses quantitatives, et tout ceci pour faire
avec un joli tableau Excel.
Un joli tableau Excel et...
ou pas.
Mais en additionnant ces questions qui sont très très diverses, finalement on ne fait qu'analyser la politique de ces différents pays et l'ampleur de la crise. Ce qu'on ne comprend pas, et ce qui est beaucoup plus important, c'est comment concrètement l'État est présent ou non dans les régions. Et dans un État comme la Centrafrique, donc vous avez dû entendre qu'il y a eu un coup d'État en Centrafrique très récemment, dans certaines régions de la Centrafrique, il y a effectivement très peu de fonctionnaires, très peu de fonctionnaires civils, très peu de militaires, et un État qui semble plus ou moins absent. Dans l'Est du Tchad ou dans le Nord du Tchad, dans ces zones qui sont très peu peuplées, qui sont elles aussi très éloignées de la capitale, on a affaire à un système très très différent. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point l'administration territoriale tchadienne, donc je parle des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des sultans, enfin, c'est-à-dire des chefs traditionnels, comment ce système fonctionne loin de la capitale et comment il fonctionne aussi pour surveiller et contrôler les populations. Donc quand les populations de l'Est du Tchad se plaignent des violences, se plaignent par exemple de la criminalité et des vols de bétail, ils se plaignent moins d'un État qui n'est pas capable de les protéger que d'un État qui distribue des positions de prédation et qui permet à certains proches du régime de se servir sur la population. Et pour cette raison, ce débat qui pourrait être uniquement théorique sur est-ce que l'on doit qualifier le Tchad d'État failli ou pas, est un débat qui est aussi politique, puisque ça renvoie à une analyse très très différente de la situation.
J'avais quand même une question par rapport à cet État. D'accord, il est fort, il est présent sur le territoire. En même temps, on voit que cette armée, à un moment, tu as expliqué qu'elle était quand même sans... Elle a une certaine latitude, elle peut prendre ses décisions. Est-ce qu'elle n'a pas une certaine autonomie par rapport à l'État qui fait qu'elle aussi, elle a une force en elle-même ?
C'est ce que l'on peut appeler le décret sans numéro, qui est l'objet de la troisième partie de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que le décret sans numéro ? C'est une expression que j'ai entendue au Tchad et que j'ai entendue en discutant avec des gendarmes qui extorquaient des civils. Et donc je leur dis « mais c'est interdit par la loi ». Et ils me répondent « oui, mais c'est décrété sans numéro ». Décrété sans numéro au sens où il n'y a pas de numéro de publication du décret, donc ce n'est pas officiel, mais décrété au sens où c'est une pratique qui est tolérée, voire parfois encouragée. Et il est important de voir que ce n'est pas un effondrement de l'État qui produit la violence, qui produit les pratiques criminelles, mais qu'on a au contraire affaire à des pratiques illégales, mais des pratiques illégales qui peuvent être en fait alimentées par l'État ou qui peuvent être au minimum tolérées par l'État.
Mais ça ne peut pas aller à l'encontre même de l'État à un moment donné. Je pense à ça par rapport... Bon, après, c'est une comparaison qui me vient en tête par rapport à l'État malien, où là, on peut penser qu'à un moment donné, enfin pour le cas de l'État malien, c'était plutôt un État assez faible finalement, qui n'avait pas une étendue... Enfin, après, je dis ça, je n'ai pas tous les éléments en tête. Hein. Peut-être que c'est compliqué d'aller là-dedans, mais simplement ces pratiques illégales, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas aussi une faille que l'État aménage, quoi ?
Ça peut l'être, mais on peut aussi considérer qu'il y a des trafics et des réseaux qui ont été mis en place dans le Nord Mali, qui ont été alimentés par certains États, et pas uniquement par l'État malien, mais par des États de la région.
Carrément.
Ce qui donne une vision complètement différente du Sahel, et ce qui suppose aussi des solutions très différentes. Si on a des acteurs qui sont des acteurs criminels qui ont pris le pas sur l'État, alors on peut avoir une intervention policière ou une intervention militaire. Si on a des acteurs qui sont des acteurs étatiques et des acteurs politiques qui mettent en place des systèmes et qui en bénéficient, alors on a affaire à des solutions qui vont être plutôt politiques.
Oui, parce qu'au Tchad, il y avait quand même, par exemple, la Libye qui a, pendant un temps non négligeable, a fourni des armes à des centaines de combattants. Donc c'est quand même... tout est lié, finalement, dans cette partie du monde.
Oui, et on a souvent cette image de combattants aux loyautés fluides qui vont passer d'un pays à un autre. J'ai, par exemple, travaillé spécifiquement sur des combattants tchadiens et centrafricains qui avaient été mobilisés dans la rébellion de Bozizé en 2003. Et on peut avoir l'image de combattants juste opportunistes qui vont traverser les frontières pour être recrutés et pour mettre leurs compétences de combattants au service de chefs de guerre. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces chefs de guerre, on a des chefs rebelles, on a des chefs d'État, et donc on a aussi du politique. Et si on sort de ce cas précis, il faut voir qu'il y a eu un débat, et un débat extrêmement important pendant toutes les années 90 et début des années 2000, entre des économistes d'un côté et des sociologues et anthropologues de l'autre. Des économistes qui ont dit que les rébellions sont avant tout alimentées par l'avidité des combattants, par l'opportunisme des combattants qui cherchent des ressources, et des sociologues et des anthropologues qui sont arrivés sur les mêmes terrains, mais avec des méthodes différentes, et qui ont dit... Si l'on écoute et si l'on prend au sérieux surtout le discours de ces acteurs armés, on se rend compte qu'ils ont aussi des revendications politiques. Et donc là, on a un débat entre ce que l'on a appelé greed ou avidité et grievance, donc agenda politique, revendication politique, qui est un débat qui a animé les milieux universitaires pendant une bonne quinzaine d'années. Mais c'est un débat qui ne concerne pas uniquement les universitaires parce qu'on a aussi affaire à des réponses politiques différentes. Si on considère que les acteurs armés sont avant tout des criminels, alors la réponse sera une réponse militaire ou une réponse policière. Si on considère que ces acteurs armés, certes, vivent des armes, certes, peuvent prélever des ressources, certes, peuvent bénéficier de la guerre, mais ce sont aussi des acteurs qui défendent un agenda politique, alors la solution va passer plutôt par des négociations de paix. Donc prendre au sérieux l'agenda politique des acteurs armés, y compris quand ils sont des acteurs qui bénéficient de la guerre, est absolument capital pour rendre à la guerre sa dimension politique.
Et alors avec tout ce que tu nous dis, Marielle, on se dit qu'il y a aussi une question qui est en fait l'outillage théorique en fait en sciences sociales, qui est cette conception très forte de l'approche de Max Weber de ce que c'est qu'un État, qui est une institution qui a le monopole de la violence légitime. Et là, en fait, avec ce que tu nous dis, c'est que l'État tchadien n'a pas forcément le monopole de la violence légitime, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un État faible. Donc ça remet en fait en cause quand même cette approche weberienne qui est très prégnante dans les sciences sociales. Comment est-ce qu'on peut... quel autre cadre théorique on peut proposer aussi, ou comment on peut vraiment déconstruire cette approche qui est si forte, quoi.
Alors on peut s'inspirer de Weber pour avoir une approche qui ne soit pas celle de l'État tel qu'il a été défini par Weber et surtout tel qu'il a été compris par des personnes qui se revendiquent aussi de Weber. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une approche weberienne des modes de gouvernement sans prendre pour référence et pour modèle l'État tel qu'il a été conçu à partir des critères weberiens. C'est-à-dire, au lieu de concevoir l'État tel qu'il... Enfin, au lieu de prendre l'idéal type de Weber et d'analyser la façon dont les États, par exemple les États africains, s'éloignent de cet idéal type, on peut chercher à comprendre, y compris en s'inspirant d'une sociologie weberienne, comment fonctionne au quotidien cet État et comment fonctionnent les ressorts de la domination dans cet État. Et il me semble que c'est une perspective qui est beaucoup plus riche, et beaucoup plus riche pas uniquement d'un point de vue théorique, mais parce qu'elle permet aussi véritablement de comprendre les enjeux sur place. Si on ne s'intéresse pas uniquement à la question de savoir, mais alors, est-ce que cette armée qui semble vraiment très différente de l'armée telle qu'on la connaît en Europe, est-ce que cette armée ne serait pas une armée d'un État faible ? Et plutôt de se dire, peu importe si cette armée ressemble ou non à l'État tel qu'on la connaît chez nous, mais essayons de comprendre concrètement comment elle fonctionne, quels sont les réseaux qui sont mobilisés, comment, dans ce contexte spécifique, la fluidité peut être une ressource, et donc comment une armée milicianisée peut marcher, peut fonctionner, tout en étant milicianisée.
En tout cas, merci beaucoup, Marielle, pour nous avoir éclairé sur le métier des armes au Tchad, le gouvernement de l'entre-guerres. Et donc, c'est publié aux éditions Cartala. Et bah, j'imagine que tu vas continuer à travailler sur les histoires de conflits en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Je ne sais pas.
Pour l'instant, je m'intéresse à l'administration au Tchad, c'est-à-dire à la part dans le mode de gouvernement qui n'est justement pas lié à la répression et à la violence.
Eh ben, on pourra continuer notre réflexion dans quelques années ou dans quelques mois sur ce qu'est un État, si on a besoin d'avoir un État fort avec, ou un État faible, et ce qu'est le faible, le fort. Et
L'État et le non-État.
Le non-État, le non-État, la structure et la non-structure. En tout cas, vous êtes avec les oreilles loin du front.
Proche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Eh ouais, vous étiez avec les oreilles loin du front. Alors ce soir, en Bogo Bogo des potards, alternativement, on avait Alex et Aude.
C'est vrai que nous, on est bénévoles.
Et oui, c'est vrai. Ça marche aussi. Hein. Et vous passiez les disques en coupant régulièrement, mais intelligemment et bénévolement. Et puis derrière les micros, on avait comme super carang-carang Céline.
Et Juliette.
Et puis, on recevait ce soir quelqu'un de bien bagagé, Marielle Debeau, pour son bouquin « Le métier des armes au Tchad, le gouvernement de l'entre-guerre » et c'est aux éditions Cartala.